Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, bonsoir chers amis de la maison de Rousseau et de la littérature, chers amis et lecteurs de Robert Walser. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici, dans la maison de Rousseau et de la littérature, de telle façon que tout ce qui se passe d'intéressant dans la littérature, qu'elle soit romande, qu'elle soit transversale, suisse, francophone, puisse avoir ici une salle d'écho, une salle de résonance. Nous sommes particulièrement heureux ce soir d'accueillir toute l'équipe, petite équipe, mais très travailleuse, qui s'est donnée pour but de transmettre en langue française l'œuvre et la correspondance. Première édition de correspondance en Suisse française de Robert Walser. Vous avez Marion Graff, la traductrice, Marlies Pietri, l'éditrice, et M. Peter Hutz, professeur d'allemand à l'Université de Lausanne, qui est un spécialiste de l'œuvre de Walser en allemand et en français désormais. Donc, c'est vraiment l'équipe qui pense, projette, conçoit la diffusion en langue française de l'œuvre de Walser. Ce sont eux, leurs idées, leur goût, leur sens de la langue qui fonctionnent pour transmettre, apporter, nous faire connaître l'œuvre de Walser dans sa diversité, sa multiplicité, sa singularité. Donc c'est pour nous un très grand honneur de les accueillir ensemble de façon à montrer à quel point dans ce genre de domaine l'esprit d'équipe, la collaboration sont de grande qualité, qui permettent aussi à ces œuvres d'être produites dans leur grande ampleur. C'est une occasion magnifique de saluer leur travail et de voir dans quelle mesure ces travaux permettent de reprendre chaque fois à nouveau frais les œuvres que nous croyons connaître, que nous avions lues il y a longtemps. Elles revivent de cette façon et sont très souvent renouvelées. L'œuvre de Walser est très originale, singulière. Elle a une influence énorme dans la modernité. Elle a traversé les temps, elle s'est donnée dans cette diversité, cette singularité, au point qu'on a même de la peine à la définir. Pour s'en rendre compte, il faut non seulement la lire, mais il faut aussi lire ce que les écrivains ont dit de lui, parce qu'il a été souvent leur porte-parole, ou bien un phare, ou bien un maître en ironie, en mystère, en rhétorique. Aujourd'hui, c'est une partie de l'œuvre inconnue qui nous est révélée, les lettres de Robert Walser. Ce ne sont pas toutes les lettres, il y en a plus de 700, mais c'est un bon tiers des lettres qui nous sont offertes ici, dans une succession chronologique. On peut donc suivre la courbe de l'évolution des œuvres de Walser, ou les cercles qu'il formait avec ses œuvres. C'est une correspondance monologique, parce que Walser lui-même n'a guère gardé les lettres qu'il a reçues, était peu soucieux de vivre dans le temps, et les traces lui suffisaient. Donc ce sont des lettres de Walser qui nous sont données à des correspondants divers qui sont identifiés et précisés. C'est donc comme un monologue ou des monologues divers de Walser qu'on lit quand on lit ces lettres. Et on n'a pas peine à imaginer les récipiendaires de ces lettres, mais surtout, on est très vite pris comme un lecteur de ces lettres. Ces lettres nous sont également adressées. Et ce jeu multiple de Walser, qui ne renvoie pas du tout qu'à son identité de lui, Robert Walser, mais à celle de l'écrivain et des différentes voix qui portent en lui, ces lettres, finalement, sont adressées à nous aussi. Et on se prend vraiment au jeu d'être des lecteurs de lettres que nous recevons. Par ailleurs, Walser aimait écrire des lettres. Et c'est bien ce qui se découvre au fil des lettres. point que les lettres et les petites pauses se confondent. On ne sait plus, à certains moments, si on nous raconte une histoire qui nous fait bien rire, ou bien qu'on lit une lettre adressée véritablement à quelqu'un, ou à un éditeur, ou à un journaliste. Il y a donc, quel que soit le sujet, quel que soit le registre, toute une variation qui passe de l'intime au comique, de la scène de théâtre ou de la petite histoire au cocasse. Chaque fois, il y a une espèce de développement d'un sentiment vers une chose qui détonne, qui étonne, une glanerie, une promenade. On passe d'une chose à l'autre, mais avec un grand souci de la composition et un grand souci de l'interlocution fantasmée, imaginaire, réelle, on n'en sait rien. Par ailleurs, une des premières lettres de Walser traite du fait qu'il y a beaucoup d'émotions, pas seulement à écrire des lettres, mais aussi à en attendre et à en recevoir. Et j'aimerais vous lire, pour introduire ce thème de la lettre, c'est-à-dire de la lettre qui est envoyée, qu'on attend, qu'on reçoit, qu'on ne reçoit pas, qu'on reçoit différent de celle qu'on imaginait, comme un monde qui porte la lettre. Et c'est un merveilleux début de ce livre de correspondance que d'éveiller en nous ces sentiments que tout le monde a eus, de s'émerveiller, d'attendre une lettre, ou de la recevoir, ou de ne pas la recevoir. Et ce qui est singulier dans cette lettre, c'est qu'il ne reviendra plus jamais sur ce sentiment un peu romantique, un peu adolescent, d'attendre la lettre. Et donc il y a aussi chez lui quelque chose qui va se perdre, comme se perd pour tout vivant, ces premières grandes, grandes émotions qui nous ont portés à attendre des lettres. C'est dans la troisième lettre. Il est à Zurich, c'est le 5 mai 1898. Il écrit à sa sœur. En ce qui me concerne, j'apprends vaillamment le français. Je vais au bureau tous les matins, je rentre fou le soir, j'attends des lettres, n'en écris pas. Attends néanmoins 3 lettres, au moins, chaque soir. Elle devrait m'accueillir quand j'ouvre la porte. Blanche, éblouissante de blancheur, avec le chef d'âme, le doux tampon postal et tout et tout. Et comme il n'y en a pas une seule, je deviens tout chose. Et je ne peux plus travailler. Et je me dis très raisonnablement, tu n'écris pas de lettres et tu en attends. Eh, Benet, ce n'est pas vraiment que j'attends des lettres. Mais en ce moment, je ne cesse d'attendre quelque chose d'aussi émouvant, d'aussi tendre qu'une lettre. Tous les soirs. Il devrait y avoir une exaltante petite surprise pour m'accueillir, exactement comme une lettre. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Les intervenants vont passer dans l'ordre suivant. D'abord Marlise Pietri, en tant qu'éditrice. La question générale qui est posée, que peut nous apporter une correspondance ? Marlise Pietri, en tant qu'éditrice, parlera des lettres et de la vie de Walser. Marion Graff, en tant que traductrice, parlera du rôle des lettres dans la compréhension de l'œuvre. Et Peter Woods parlera du rôle de la correspondance et du sens de la correspondance de Robert Walser. Comme ils travaillent en équipe, ces 3 exposés vont se dérouler successivement, mais ils vont pouvoir interagir et intervenir les uns les autres échanger, ce qui permettra par la suite que le public puisse poser ses questions et intervenir également. Merci.
Merci. Le projet de la correspondance chez Zoé existe, comme on nous l'a rappelé en France, dans une librairie depuis 8 ans. Pour les lecteurs de Walser, pour qui nous avons publié les livres, qui étaient surtout chez Zoé des petites proses. Donc Gallimard a publié des romans, quelques petites proses aussi. Nous avons publié en tout, je crois, 12 de livres. Nous pensons, je pense, que tous ceux qui aiment Walzer n'arrêtent pas, en lisant ses proses, de se poser la question de sa vie, de comment il était à tel moment de sa vie, quand il était jeune et qu'il publiait les poèmes, quand il était à Berlin, quand il publiait surtout les petites proses dans la période de Bienne, j'oublie la période de Berlin avec les romans aussi, comment il était ensuite à Berne. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose de lancinant pour le lecteur, cette question de la vie de Walzer. Si bien que la correspondance me paraît essentielle. Nous avons eu énormément de chance parce que l'équipe qui s'en est occupée et qui n'est pas seulement faite des personnes qui sont ici, mais aussi de celles qui sont à Berne, au centre Walzer, et qui préparent la correspondance en allemand. Il y a eu une entente extraordinaire entre tous, et ceux qui préparent la grande correspondance en allemand, parce que cette correspondance est parue en 75, hein,
une première édition,
elle est parue en 75, et maintenant il y a une deuxième édition complète d'érudition avec toutes les lettres qui va paraître en 14, hein. Mais ceux qui travaillent cette correspondance à Berne nous ont fait profiter absolument de tout ce qu'ils avaient déchiffré. Donc le livre en français contient des éléments de cette correspondance complète qui sera publiée dans environ 2 ans. Voilà, l'entente a été totale aussi pour le choix des illustrations, parce que dans le volume, vous avez un petit cahier avec des facsimilés. Nous aurions voulu en mettre le triple, mais c'est un peu difficile de faire des éditions avec beaucoup d'images. Mais vous verrez chercher, il y a une lettre en français qui est extrêmement drôle et qui est reproduite. Walzer parlait quand même bien le français. Et puis quand même, dans les lettres, on voit différentes écritures, dont une lettre à Frida Mermet où il fait des magnifiques lettrines. Enfin, elle est très, très séductrice, cette lettre. Voilà. Alors, l'essentiel de ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une extrême entente pour ce livre et que maintenant que pas mal de gens l'ont lu, la correspondance, on a fait tout un tour avec Marion Graff en France, il y a eu beaucoup d'articles. On peut vraiment dire que ce sont les lettres d'une vie. C'est quand même, ça dit quand même beaucoup de choses sur la vie de Walzer, mais pas dans le sens qu'elle révèle des choses intimes, mais dans le sens que quand vous commencez à les lire, vous les lisez toutes. Ce n'est pas un livre, je pense, dans lequel vous allez piquer une chose et une autre, parce que les lettres sont pratiquement toutes à la fois informatives et très drôles. Si bien qu'on a envie de continuer et que Walzer s'adresse à ses éditeurs ou qu'il s'adresse aux critiques ou qu'il s'adresse aux femmes qu'il aime, surtout à Frida Mermet, mais aussi ensuite à Thérèse Breitbach, il est toujours comme il est dans toutes les proses qu'on peut lire. Alors je crois que ce n'est pas du tout contradictoire, mais les autres, Marion Graff et Peter Hutz, pourront beaucoup mieux expliquer. Ce sont des petites proses et on a envie de lire le livre d'un bout à l'autre. Je vais commencer uniquement par la lecture de 1 ou 2 petits extraits, puisque c'est mon métier d'éditer, sur ce qu'il recommandait à ses éditeurs. Et ça concerne justement un livre que nous avons publié en français, Vie de poète. Il écrit à son éditeur Huber depuis Bienne en le 19 juin 1917. Il est donc très précis, il a reçu un échantillon de la composition. Quant à l'échantillon de la composition que vous m'avez fait parvenir, permettez-moi de vous répondre ce qui suit. Je puis donner mon accord pour le choix du papier qui semble bon. En revanche, avec votre permission, je refuse catégoriquement la police de caractère. Qui, à plus forte raison pour un livre comme Vie de poète, me paraît trop pointue et anguleuse. Il y a là quelque chose de recherché et de plus de très peu populaire, à quoi je refuse de donner mon accord. Un peu plus loin. Rien d'anguleux, rien de dur, mais quelque chose de gentil et de souple. La composition doit avoir un aspect souple, rond, modeste, chaud et honnête. Le livre, si possible, doit avoir l'air d'avoir été imprimé en 1850. On est en 1917. En d'autres termes, voici mon vœu, le plus ardent et le plus cher dans cette affaire. Il y a non modernité. En aucun cas, nous ne voulons imiter ce qui, ces dernières années, s'est produit dans le Reich comme horreur raffinée ou comme horrible raffinement dans l'art du livre. Et enfin, mais avant toute chose, une fracture fine, délicate, ronde, sobre, le livre doit avoir l'air allemand, non pas assyrien ou égyptien. Je ne sais pas si vous voulez réagir.
Il faut enchaîner. Bon, c'est ce vœu de non-modernité qui peut-être nous interpelle en 1917. Pendant la guerre, on attendait des écrivains une certaine forme d'engagement. Et l'engagement de Walser est celui qui est en contradiction avec la plupart des attentes qui étaient autour de lui, d'être pacifiste, d'être belliqueux, d'être pro-allemand, pro-français. Et son engagement à lui, c'est vraiment un engagement d'écrivain. On en a d'autres preuves dans d'autres lettres, en particulier celle qu'il envoie à Hermann Hesse, puisqu'on en est là, je crois qu'on va juste enchaîner peut-être sur un exemple de cette lettre à Hermann Hesse, qui sollicitait Walser pour participer à un recueil d'essais d'écrivains, d'écrivains à propos de la guerre. Et Walser est très clair et très drôle en même temps. Votre remarque, selon laquelle les écrivains pourraient tout de même faire quelque chose, ne me surprend aucunement. L'idée s'impose d'elle-même. Il peut paraître injuste d'être assis dans un luxueux manteau, comme je le fais, dans un ancien palais vénitien, et de se faire servir par 700 prestes domestiques. Le bruit court que Robert Walser mène une vie de petit bourgeois, de fainéant et de patachon, au lieu de lutter. Les politiciens sont mécontents de moi. Mais que veulent donc les gens ? Et qu'obtient-on de grand et de bon grâce à des articles de journaux et de revues ? Quand le monde sort de ses gonds, l'effort de 20 000 Hamlet furieux ne sert pas à grand-chose, ou même à rien. Je lis chaque jour un peu de français, parce que cette langue est si jolie. Suis-je pour autant une crapule ? Et il me faut, pour mon bon plaisir, aller tous les jours un peu me promener dans la campagne hivernale. Est-ce que je prouve par là mon indifférence à tant de souffrances ? Je crois que vous précisément, mieux qu'aucun autre, comprenez très bien pourquoi j'aime à rester silencieux et pensif. Je vous salue bien amicalement du palais de marbre dans lequel je vis, votre Robert Walser. Donc cette lettre date du 15 novembre 1917, et Walser à cette époque-là vivait dans une pauvre mansarde au dernier étage de l'hôtel de la Croix-Bleue à Bienne. Donc vous imaginez bien toute l'ironie qu'il y a derrière chacune de ces lignes adressées à Hermann Hesse. Je ne sais pas si tu veux compléter.
Juste d'ailleurs, par rapport à Vie de poète, en fait, Hesse lui a retourné d'une certaine manière le message, parce que Hesse a fait une critique de ce livre dans la Neue Zürcher Zeitung, et là il dit la fameuse phrase qui est maintenant souvent citée, si Walser avait 100 000 lecteurs, le monde serait meilleur et plus, il n'y aurait plus de guerre. Donc il est allé très loin, donc Hesse suite peut-être aussi à cette lettre. Donc,
voilà, et puis Hermann Hesse, dans sa critique de Vie de poète, je crois, compare Walser à Eichendorff et au propre Arien, un célèbre livre romantique. Et Walser répond pour remercier Hesse de cet article élogieux, donc c'est quand même une situation pour un écrivain toujours de gratitude, de remerciement. Mais Walser, en même temps, n'est pas très d'accord avec cette comparaison que Hesse fait avec Eichendorff. Et je vous lis peut-être de nouveau un petit extrait de cette lettre qui vous montre comment Walser est toujours d'une immense franchise, même avec les gens par rapport auxquels il est dans une certaine situation de dépendance. Hermann Hesse était très influent, très, très connu. Voilà. Je rentre à l'instant d'une promenade à pied dans la neige à travers le Jura. Et je suis encore tout rempli de belles impressions et de la chaleur de la marche. J'ai lu la semaine dernière votre brève, très belle et noble recension de Vie de poète dans la N77. Que vous ayez une façon incroyablement bonne de parler d'un livre, bien des gens vous l'auront déjà dit sans doute. Du reste, je suis également persuadée de la valeur inestimable du propre Arien d'Eichendorff. Quel livre allemand et quel livre gracieux. Mais comme, dans ce chef-d'œuvre, le personnage central est un brave gars stupide, que tout est assez simple et naturel, sans courants latéraux ou souterrains, rien d'effrayant, de strindbergien, rien de tordu et de maladif, de canaille, de trompeur ou d'épouvantable, le lecteur en est pour ainsi dire gêné. Je vous remercie de tout cœur et vous adresse de ma chambre de guerrier et de diplomate européen, ou plutôt de ma chambre de député, mes salutations respectueuses et bien amicales, Robert Walser. Donc, ces lettres vous donnent une certaine idée, disons, de la gaieté des lettres de Walser, même dans des affaires finalement assez délicates et professionnelles. On a aussi une très grande gaieté dans des lettres encore plus gênantes, dans lesquelles Walser s'adresse à ses éditeurs pour demander des honoraires. Il était, contrairement à une idée reçue que cette correspondance dément formellement, il était très conscient de sa valeur et de sa valeur sur le marché aussi. Et il n'y a pratiquement aucune lettre dans laquelle Walser offre ses services et dans laquelle, immédiatement, il ne donne pas le tarif. Et quand les revues en particulier sont pingres et ne lui payent pas ce qu'ils lui doivent, il sait aussi se rappeler aux souvenirs des éditeurs de revues avec une très grande drôlerie, mais une très grande fermeté aussi. Et le plus incroyable, c'est qu'on continue à lui commander des textes. Quelquefois, on se demande vraiment jusqu'où il pouvait aller dans l'insolence. Mais évidemment, la force de ces textes faisait qu'on lui en redemandait.
Et que même une fois, son refus, sa lettre très insolente a été citée comme exemple de comment un écrivain devrait écrire à un rédacteur ou à une maison d'édition après qu'on lui a refusé un texte.
Non, en fait, c'était juste qu'il a fait une demande honoraire au Berliner Tageblatt, qui était quand même sa source de revenus principale dans les années 20. Donc le Berliner Tageblatt, c'était un des journaux phares, en fait, du domaine allemand. Il ne faut quand même pas sous-estimer, donc, finalement, aussi l'emprise qu'il avait dans le marché littéraire de son temps. Et donc, c'était clair pour lui aussi. Il payait très bien, donc, aussi, le Tageblatt. Donc, c'était essentiel. Et là, il a juste osé leur rappeler qu'en fait, il manquait encore un honoraire. Mais il l'a fait d'une manière certainement un peu soumise, mais aussi ironique, etc. Donc, assez subtile comme ça. Et c'est cette lettre-là que le journal a publiée après, par la suite. Donc, cette lettre, nous l'avons uniquement à travers la publication dans le journal même, qui a cité encore avec une autre ironie, qui est due au rédacteur là, comme exemple type, comme ça, comme un auteur au moins pourrait s'adresser à la chère rédaction.
Je crois que je vais vous lire cette lettre parce qu'elle date, elle, du mois d'août 1929, et Walser l'a écrite au moment où il était déjà hospitalisé. Vous savez qu'il a été hospitalisé en 1929, au printemps 1929, à la Waldau, qui était donc la clinique psychiatrique du canton de Berne, et que cette longue vie de Walser en institution, après il a été à partir de 1933 installé contre son gré à Herisau, donc en 1929, voici comment encore il écrivait de la clinique en donnant probablement son adresse en ville de Berne, à son éditeur au Berliner Tageblatt. Monsieur, il vous a plu d'honorer les trois dernières contributions de ma plume que vous avez bien voulu publier d'un montant de X, puisque cette lettre ne nous est pas parvenue par les papiers de Walser, mais par le journal qui l'a reproduite, on n'a pas les montants.
Ils ne l'ont pas mis, donc.
Ils n'ont pas mis les montants. Donc de X. Hein. À ma connaissance, nous avions convenu ensemble d'une taxe de, temps et temps, par morceau de prose, raison pour laquelle j'aimerais, par la présente, vous demander l'aimable versement de, temps et temps, étant d'avis que l'honnêteté est jolie partout, c'est-à-dire qu'elle vaut pour tous, et que les conventions, particulièrement dans les relations d'affaires de nation à nation, doivent être prises au sérieux. Me permettant d'attendre de ne subir aucun traitement non chevaleresque de votre part, je vous prie, monsieur, d'agréer mes salutations distinguées, Robert Walser.
Bon, il faudrait peut-être ajouter juste une autre phrase. En fait, c'est une phrase que j'aime aussi, qui est assez violente, agressif, peut-être la plus méchante de tout le livre, peut-être. C'est une phrase qu'il adresse donc à Max Brod à propos des des éditeurs. Et là, il dit, je note cette phrase mémorable, « Les écrivains qui sont aux yeux des éditeurs une bande de gueux devraient frayer avec ces derniers comme avec des porcs galeux. » Juste pour dire qu'il peut quand même adopter des postures assez variées, disons. Et c'est ça ce qu'on découvre dans ce volume, en fait, quelqu'un qui est très, très au fait, pas uniquement des mécanismes de la... finalement, du monde littéraire et aussi du monde du marché littéraire, et qui a donc, pour ainsi dire, acquis une sorte de compétence systémique, si l'on veut, c'est-à-dire il sait très bien où et comment et combien, etc. Donc, et qui se vend justement toujours au bon prix, au bon moment, si c'est possible, mais aussi donc, la variété dans ce style, finalement. Les possibilités stylistiques qu'il a acquises dans son œuvre littéraire lui servent aussi, et vice-versa évidemment, lui servent aussi dans ses rapports avec les éditeurs. Donc tout cette gamme en fait qu'il a, une gamme très large, donc très développée entre une soumission, une fin de soumission, mais aussi des fois un ton assez arrogant, la volonté de s'imposer, toute cette gamme est représentée dans ce volume. Donc en fait, pour moi, c'est aussi une des découvertes qu'on peut faire ici, qui, finalement, des phrases comme celle que je viens de citer, ça sort quand même de ce qui a été publié par des éditeurs, évidemment. Donc là, ça c'est un aparté qu'on peut partager dans ce type de correspondance, où il partage avec Max Brod le même souci par rapport aux éditeurs. Par ailleurs, il a dit des méchancetés à propos de Max Brod à un autre, etc. Donc tout ça, on est en plein dans le... commerce et le milieu littéraire, donc c'est pas un homme qui vit à l'écart du monde, en fait, dans sa fameuse mansarde, mais justement, au moins à travers cette correspondance, il est en plein dedans et il tire les ficelles comme bien d'autres. Donc c'est peut-être ça aussi qui lui permet finalement de tenir aussi longtemps que ça, donc de rester dans ces circuits. Il est un des feuilletonistes, parce que c'est ça son métier, donc d'écrire ces courtes chroniques qu'il doit vendre, qu'il veut vendre à ses quotidiens ou à ses revues. Il est un parmi toute une génération de feuilletonistes qui tient le plus longtemps dans ce métier, qui est peu gratifiant finalement, parce qu'on trouve peut-être beaucoup de textes imprimés, mais on n'a jamais, ou il n'a jamais pu donc accéder à la gloire du livre imprimé, au moins dans les années 20, après La Rose, tous les projets éditoriaux ont échoué. C'est pourquoi aussi cette frustration vis-à-vis des éditeurs. Donc, et aussi, on est renseigné maintenant à travers ces lettres, donc de toutes ces tentatives de quand même encore vendre un livre, de publier un livre chez tel et tel éditeur. Et là, les démarches se multiplient et sont infructueuses. Donc, il reste un ressentiment d'une part, mais d'autre part, une énorme compétence qu'on découvre ici. Donc, c'est l'homme, pour moi, c'est un peu le côté, disons, presque le commis Walzer, donc qui est à la tâche pour son propre entreprise. Donc, tout ce qu'il a appris comme commis, c'est-à-dire la belle écriture. D'ailleurs, vous voyez aussi la variété de ses écritures, donc qui sont dans les reproductions. On voit qu'il a énormément d'écritures différentes, et ça reflète aussi un peu la variété des styles qu'il peut finalement mimer ou mettre en avant, donc vis-à-vis de telle et telle personne. Donc on découvre en fait quelqu'un qui est commis de sa propre entreprise littéraire. Ça, c'est un versant de ce qu'il a, de ses lettres. D'autre part, on trouve quand même aussi un homme seul, disons, un homme qui reste isolé, qui le reste d'une manière volontaire, peut-être pas toujours, et qui a besoin de ses interlocuteurs ou des interlocutrices, et surtout des interlocutrices, c'est-à-dire en fait, notamment ces femmes à qui il adresse ses monologues épistolaires. Et je pense qu'il faudrait peut-être parler de, quand même, lire un texte ou autre de cette... C'est finalement cet axe central de toutes ces correspondances, c'est les lettres qui sont adressées à son ami Frida Mehmet, qu'il a connu en 1913, C'est un moment crucial pour lui, je pense, c'est ça ce que je peux peut-être dire encore en introduction, aussi biographiquement. Walser a fait un bout de carrière à Berlin, il n'était quand même pas du tout marginalisé à ce moment-là, il a fait les premiers pas chez les meilleurs éditeurs, donc vraiment dans le milieu d'avant-garde de Berlin, puis il y a un certain essoufflement, et puis en 1913, il rentre à Vienne, et c'est à ce moment-là qu'il fait la connaissance, à travers sa sœur, Abel Hélé, donc dans le Jura bernois, fait la connaissance de cette femme qui a pratiquement son âge, qui tient la lingerie de l'institution qui est là, Abel Hélé, et donc c'est elle qui finalement deviendra la principale, disons, interlocutrice épistolaire de lui, pendant toutes ces années-là, donc pendant toutes les années de Vienne, de Berne, et aussi encore un tout petit peu dans les années de l'internement à la Waldau, puis à Elisau. Et ça, c'est quand même les lettres les plus belles, peut-être, de cette correspondance, et c'est aussi une relation assez insolite qui se trame à travers ces lettres.
Mais ça, c'est une surprise du livre. Moi, j'avais toujours entendu parler de Frida Mermet comme quelqu'un qui était une relation de Walser, mais qui est une femme, on disait lingère. Enfin, je la voyais comme quelqu'un qui était, au fond, qui n'avait pas des fonctions importantes, et comme s'il lui écrivait parce qu'il ne pouvait pas faire mieux. Mais ce qu'on découvre dans la correspondance, c'est que Frida Mermet, d'abord, c'est une femme qui dirige tout un secteur de l'hôpital, c'est la blanchisserie, mais enfin, elle est quand même une femme qui a beaucoup de pouvoir et qui joue auprès de lui, bien sûr, le rôle de lui envoyer des saucisses, du fromage, des vêtements chauds, mais aussi de lui garder ses archives et sa bibliothèque. Mais alors, ce qui est tout de même très frappant, Marion va lire une lettre, c'est que ces nombreuses lettres sur 27 ans, hein, il y a 27 ans de lettres de lui à elle, on peut quand même se rendre compte qu'il y a une véritable relation entre eux, que c'est une relation d'amour, même si ce n'est pas au sens tout à fait habituel, parce qu'il y a toujours la distance. Mais enfin, il lui écrit justement comme il écrit dans les petites proses. Donc on en profite aussi, mais on se dit que ces deux personnages, on ne la connaît malheureusement pas beaucoup, il y a juste une photo d'elle dans le livre, c'est une femme divorcée et qui a un enfant, il parle beaucoup de l'enfant, mais on découvre quand même cet immense pan de sa vie qui, à mes yeux, est quand même un pan très heureux.
Un exemple de lettre, mais on pourrait en choisir beaucoup parce qu'elle recèle chaque lettre recèle une petite pépite au fond. Hein. Alors bon, je vous en lis une. C'est celle du 24 octobre 1918 de Vienne. Chère Madame Mermet, ou chère souveraine, j'espère que vous allez bien, ainsi que le jeune monsieur, donc le fils de Madame Mermet. Pour ma part, chère Madame Mermet, je ne vais pas trop mal, dans la mesure où je sais assez bien à quoi je vais devoir travailler cet hiver. Ce n'est pas le moindre soulagement que de le savoir, pour la tête d'un poète qui souvent ne tâtonne que trop dans le divers, c'est-à-dire dans l'indéterminé. Ainsi, j'ai devant moi une tâche bien définie à accomplir. Vous me direz qu'à votre égard aussi, j'ai des tâches à accomplir et des souhaits à satisfaire, n'est-ce pas? Vous êtes certainement assez fortement en droit d'exiger beaucoup de ma part et d'être ma petite maîtresse sévère, je vois bien. Mais vous m'accorderez certainement la liberté, jusqu'à nouvel avis, toute celle que désire Robert Walser, qui veut vous être fidèle en ce qu'il a décidé de penser profondément à vous, chaque jour, comme s'il vous appartenait corps et bien, et que vous puissiez faire, que vous puissiez presque faire de lui ce qu'il vous plaira. Je dois en venir à me dire que tout en vous est beau et cher. Pensez-vous que j'y parviendrai? Nous verrons, direz-vous. Cette lettre, au fond, n'est qu'une requête ou une lettre de mendicité, car je dois mendier auprès de vous un peu de sucre à mettre dans mon thé. Auriez-vous cette bonté, chère Madame Mermet? Pour tout ce qu'il a reçu en plus du pain, pour le beurre, le morceau de fromage et les deux tranches de rôti de porc, votre petit chien vous dit merci. Vous m'avez écrit la dernière fois juste un petit billet, découpé avec des ciseaux. ce dont je me suis satisfait, car à elle seule, votre drôle de jolie petite écriture est à mes yeux semblable à de belles paroles. Ces derniers temps, mes affaires d'écrivain se sont développées en ma faveur. J'ai bien réussi à m'extraire de certaines inquiétudes. Je ne dis pas grand-chose de la politique aujourd'hui, ou plutôt rien du tout. En pensée, j'entends toujours votre chair rire et je vois votre bouche et votre façon d'être assise et de bouger. Vous avez quelque chose de juvénile et vous êtes déjà une personnalité, un être qui a vécu et enduré toutes sortes de choses. Hier, près du kiosque, j'ai vu une jeune fille qui avait des yeux vraiment magnifiques. Noirs, le visage fin, la bouche extraordinairement expressive. Je peux vous assurer, chère Madame Mermet, qu'elle m'a regardée, en tournant à deux reprises sa mignonne petite tête dans ma direction. Je vous le raconte afin que vous voyez que ce n'est pas tout à fait un pauvre Gus qui correspond avec vous et qui mange le beurre qu'il reçoit de vos douces mains bienveillantes. Il y a tant de jolies jeunesses dans ce bas monde que parfois on s'étonne. Adieu, recevez les cordiales salutations de votre très vieux, de votre très inutile, ou même de votre inutilisable, misogyne, cannibale et célibataire, un tel. Vous savez bien comment il s'appelle. Donc évidemment, traduire ces lettres, c'est très jubilatoire, surtout que Walser invente toujours de nouvelles formules d'adresse et de salutations, tout en restant toujours assez cérémonieux par rapport à Madame Mermet. Il ne passe jamais au tutoiement, il ne s'adresse à elle par son prénom. Il reste toujours dans le « cher Madame Mermet ». Mais en revanche, à la fin des lettres, parfois, il y a des drôles de tournures, par exemple. Cette année, je n'ai pas énormément produit. J'ai laissé à quelques génies le temps de se développer dans toute leur splendeur. Mais je reste néanmoins à peu près au 9e rang des poètes helvétiques. Et à ce titre, je vous envoie mes salutations. Et vous reste non pas fidèle à l'excès, ce qui serait lassant pour vous, mais encore et toujours un peu affectionné. Et tout en vous vouant une estime inouïe, votre Robert Walser. Ou bien, j'en ai retenu là juste quelques-uns, parce que je trouve que c'est chaque fois drôle. À propos de ma promesse de ne plus rien boire, je pense la tenir terriblement longtemps, à quelques exquises petites exceptions près. Je me suis trouvée dans la chambre d'une veuve, devant une bouteille de vin, d'une honnêteté colossale. Et je vous quitte sur ce récit, sur cette promesse de vous en donner d'autres à l'occasion, en vous saluant bien cordialement, votre pas encore archivieux, Walser Ruby. Ou encore, enfin on pourrait continuer longtemps. Peut-être qu'on a d'autres choses à dire.
On n'en finit pas avec les fins.
Ah oui, il y a une autre correspondante de Walser, qui est la jeune Thérèse Breitbach, qui est une très jeune fille, alors avec laquelle Walser commence à correspondre quand il approche de la cinquantaine. Et cette jeune fille, elle a 17 ans au début de leur correspondance. Elle est la petite sœur de Joseph Breitbach, qui était un jeune écrivain qui cherchait à se faire un nom. Et il semble bien, on n'a pas les lettres de Thérèse Breitbach, qu'elle entame cette correspondance avec l'idée de demander un peu des conseils à Robert Walser sur la façon d'accompagner la carrière de son grand frère, futur grand écrivain. Et Walser répond avec un peu de paternalisme et beaucoup d'humour à cette Thérèse Breitbach, qui était une jeune fille allemande. Et à cette époque-là, donc à la fin des années 20, Walser vivait donc à Berne, mais travaillait pour des journaux allemands, pour des revues allemandes de Berlin, de Prague aussi d'ailleurs, il y avait deux journaux de langue allemande à Prague, mais pour d'autres journaux encore et des revues allemandes à Munich aussi. Et pour lui, s'adresser à cette jeune Thérèse Breitbach, c'était en fait s'adresser un peu à l'archétype de la lectrice de ses feuilletons et de ses textes perdus dans la vaste Allemagne. Donc on sent très bien qu'il fait un effort d'imagination pour s'adresser à une lectrice type. Alors il fait beaucoup d'allusions à la vie littéraire allemande, il s'efforce aussi d'adopter un ton peut-être plus mondain que dans ses lettres à Frida Mermet. Donc c'est un exercice d'écriture, si on veut, dirigé vraiment vers l'Allemagne. Et là, il y a une lettre, par exemple, où il s'adresse à elle en lui disant « Ma chère Rési ». Et à la fin de cette... Elle s'appelle Thérèse, donc Rési, c'est son petit nom un peu familier. Il finit cette lettre comme ça. « Non sans corriger encore, avec tact, l'adresse ci-dessus, qui est un peu trop directe et simplette, je vous salue grandement, c'est-à-dire avec un geste d'homme du monde, votre Robert Walser. » Et puis après, la lettre suivante, « Ma très vénérée demoiselle, je vous ai écrit une lettre si incroyablement déplacée, dont les formulations ne laisseront pas mon fort intérieur en repos, tant que je ne vous aurai pas présenté mes excuses en bonne et due forme. Je viens de lire dans un journal d'ici le compte-rendu d'un essai sur le bolchevisme qui nous a beaucoup donné et nous donne encore beaucoup à réfléchir, à nous autres Européens. Tout en vous remettant modestement une photographie en annexe, c'est-à-dire un tirage d'essai d'une photo qui paraîtra prochainement avec une nouvelle de rêve de ma plume dans une revue religieuse, et tout en vous priant encore une fois très humblement et très amicalement de faire preuve d'indulgence envers le pauvre pécheur qui vous écrit ici. Je vous adresse mes meilleures salutations et n'ose espérer de réponse de votre part. Je m'incline impeccablement devant la cathédrale de votre bonté, votre Robert Walser. » Alors cette revue religieuse, c'est toute une histoire, peut-être que tu en parles, cette revue religieuse entre guillemets. Il s'agit de la revue Individualité. En fait.
D'accord, juste une parenthèse encore, je pense que c'est assez révélateur pour Walser. Finalement, le problème, c'est d'arrêter le mouvement. Et donc, cette histoire avec ces formules de clôture, c'est une fois, d'une certaine manière, évidemment, c'est un jeu qui fait à merveille de variations, etc. C'est aussi un jeu de déguisement, évidemment, donc toujours se cacher sous un autre nom, d'une certaine manière, et c'est clair. D'éviter la signature, pour ainsi dire, définitive. Donc tout ça, c'est un problème et aussi un défi, finalement, de toute écriture. Tout comme le début, c'est-à-dire comment lancer le mouvement. Je trouve que dans ces lettres, il y a toujours le problème comment débuter, comment finir, évidemment, comme pour toute écriture. Donc ça, c'est tout à fait commun aussi aux proses qu'il écrit, pour ainsi dire, avec la même main sur la même table. Donc les proses de la même période, en fait, ressemblent beaucoup à ces lettres. Il y a donc une prose qu'il publie par la suite qui s'appelle « Lettre à une jeune fille », n'est-ce pas, et qui pourrait effectivement avoir été adressée à Thérèse Blythe-Parr. En fait, on ne sentirait même pas la différence. Mais c'est toujours le problème de ce lancement d'initiative, de ce lancement d'un texte, de trouver le motif, en fait, le motif initial. Dans une lettre d'amour, en fait, on n'a pas besoin, d'une certaine manière, de ce motif initial, parce que l'amour est là, et avec Frida Mehmet, au moins dans la première période aussi, j'ai l'impression qu'il y a ce motif. En fait, il y a un mouvement comme ça qui est là, qu'il ne doit pas chercher ailleurs. Et après, dans les années 20, une fois la relation avec Madame Mermet établie, avec une certaine distance aussi, je pense qu'il a trouvé à peu près la distance nécessaire pour lui, au moins, je ne sais pas pour elle. Et à ce moment-là, il n'y a plus vraiment besoin n'est-ce pas, la lettre de 1918 que tu as lue, en fait, c'est un moment peut-être crucial de cette relation où effectivement il fait un pas de plus, peut-être un pas de trop, on ne sait pas exactement, il s'est heurté probablement à un refus d'elle, etc. Et après, donc, la relation reste intime d'une certaine manière, c'est-à-dire de la manière comme il définit cette intimité. Mais là, il faut toujours un motif initial. Et le motif initial, souvent, c'est, par exemple, elle lui a envoyé justement une saucisse ou quelque chose de bon, de nourrissant, de Belélé. Et puis alors, ça peut relancer. Donc, il retourne, pour ainsi dire, ce paquet avec un flot de mots. Et le problème, c'est effectivement comment contrôler la fin. Et c'est ça ce que je trouve magnifique dans ces lettres, c'est toujours finalement cette souveraineté de Walser de bien régler le déclenchement et aussi l'arrêt. Donc il reste maître de cette ouverture, ces lettres lui sont essentielles, je viens de le dire, n'est-ce pas, il y a quand même, c'est un homme assez seul, esselé, menacé aussi par la solitude, et ça transperce quand même passablement dans ce volume. Et alors, il ouvre la fenêtre, il laisse aller, il se laisse aller, mais jusqu'à un certain point. Et après, celui qui contrôle le degré d'ouverture, il referme la fenêtre, il peut se remettre au travail. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel pour maintenir sa créativité. Je voulais juste faire cette parenthèse parce que ces lettres ont toujours un mouvement qui est en fait tout à fait homologue au mouvement des textes et proses, de se lancer tant à partir d'un certain motif, et tout aussi anodin qu'il le soit, un motif, il faut avoir un point de départ pour en arriver où, il ne le sait certainement pas au moment où il lance le mouvement, mais il faut pouvoir arrêter le mouvement. Donc c'était en fait un peu la grande parenthèse que j'ai faite par rapport à ces textes que je trouve finalement aussi comme textes littéraires tout à fait remarquables. On peut constater qu'il y a vraiment une grande homologie entre les textes, notamment les lettres à Frida Mermet, qui n'ont plus vraiment, disons, un autre motif que d'être des lettres, et des lettres écrites, et des lettres écrites par sa main, etc. Ces lettres-là, dans les années 20, sont presque homologues à ces proses qu'il écrit, et où il divague tout aussi que dans les lettres à Frida Mermet. Donc, bon, je pourrais aussi parler encore de cette revue religieuse, mais on peut aussi ouvrir le débat, peut-être, si vous voulez, parce que ça, c'est l'histoire de cette revue, c'est un cas particulier, un cas où on voit encore une fois comment Walzer s'est intéressé à une revue qui vient de se créer en 1926, une revue effectivement d'un milieu anthroposophique, et il fait la connaissance du rédacteur en chef, de l'initiateur, un jeune journaliste écrivain, et il est pris vraiment par cette aventure, donc ça l'intéresse beaucoup jusqu'à la présentation graphique de chaque numéro, etc. Et donc si sur un ton un peu ironique il parle de ces contributions-là à Lizzy Breitbach, on peut à côté donc suivre en fait l'évolution de cette relation qu'il a entretenue avec cette revue dans toute cette correspondance. D'ailleurs, c'est une partie de la correspondance qui est aussi qui est nouvelle, c'est-à-dire nous la connaissons depuis une quinzaine d'années seulement. Ces lettres ont été retrouvées justement dans les fonds de cette revue, c'est-à-dire l'héritier de cette revue. Et nous, en fait, c'est une relation assez particulière justement parce que Walzer pense d'une certaine manière à travers cette revue comment toute revue devrait se présenter, quelle est la relation d'un écrivain qui écrit pour des revues vis-à-vis de son public. Donc il en dit un tas de choses intéressantes. Mais ça, pour le moment, je pense qu'on n'en parle pas parce qu'autrement...
On est intarissable. Hein, quand on...
Voilà. Donc, je pense que c'est le moment d'arrêter. Alors, d'ouvrir.
Je vous donne la parole. Peut-être que...
On sait que Walzer donc, a été hospitalisé à un certain moment en psychiatrie. Et comme vous aviez dit, il a été exilé à Erizor même. Est-ce que dans les lettres, il y a rupture à un certain moment où on remarque un changement qui intervient ou en réalité c'est un flux qui continue et ça ne se reflète pas dans les lettres?
Alors, le premier séjour en milieu hospitalier de Walzer, c'est donc à la Waldau, entre 1929 et 1933. Et là, après quelques semaines d'interruption, il reprend son activité d'écrivain. Il a un endroit tranquille où travailler. On lui avait mis un espace à disposition. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il reprend sa correspondance avec les revues, avec les journaux pour lesquels il écrivait des feuilletons, en donnant son adresse en ville. Donc sa correspondance reprend aussi sur le ton qu'elle avait eu avant, donc à la fin des années 20. Et puis en 1933, alors là, il y a une rupture nette. C'est-à-dire qu'il a été, à un certain moment, la direction de la Waldau a changé, et le nouveau directeur a évidemment tout réorganisé, comme ça se fait toujours, hein, quand il y a un nouveau directeur. Et... Walzer a été considéré comme un malade chronique qu'on pouvait peut-être renvoyer dans sa famille ou bien mettre dans une maison, dans un pavillon à la campagne et travailler un peu au champ. Enfin, ces deux variantes étaient inacceptables pour Walzer qui n'était pas habitué à travailler au champ, il a donné peut-être un petit coup de main au jardin dans la clinique de la Val d'Arve, mais en tout cas, en aucun cas, un employé agricole, un ouvrier agricole. Et être accueilli par sa famille, c'était aussi impossible. Sa famille ne pouvait pas l'accueillir, ne voulait pas. Ce qui fait que la seule solution qui restait, qui s'est imposée, c'était que Walser regagne la maison, la clinique psychiatrique de son canton d'origine, qui était le canton d'Appenzell, dans lequel il n'avait jamais mis les pieds. Sa famille avait quitté ce canton plusieurs générations avant sa naissance. Et là, à Herisau, il a été accueilli, alors qu'il avait en fait encore les moyens financiers de subvenir à ses besoins. Je crois qu'il n'est jamais tombé en fait à la charge de son canton, mais sa famille, par mesure de prudence, pour être sûr qu'en tout cas, il ne devrait jamais subvenir aux besoins de Robert Walser, trouvait que c'était bien qu'il soit là-bas. Et on sait qu'il a été emmené de force et qu'il a été aussi mis sous tutelle contre son gré, de nouveau, pour qu'il ne puisse pas disposer lui-même de sa modeste fortune, c'est peut-être trop dire, mais de ses économies qui ont été après alimentées grâce à Karl Zelig, qui est un homme de lettres zurichois, mécène, qui assez tôt, dans les années 30, a su que Walser était à Herisau, qui est allé le voir et qui, à un rythme plus ou moins soutenu, a réussi à publier des livres, à rééditer des romans de Walser ou des petites proses de Walser et à obtenir des droits d'auteur pour lui, ce qui fait que Walser a vécu de sa plume jusqu'à la fin de ses jours. Mais enfin, à Herisau, il a complètement cessé d'un jour à l'autre d'écrire. On n'a aucun texte littéraire de Walser de cette époque-là, et c'est une coïncidence vraiment frappante que ses lettres, à partir de son séjour à Herisau, deviennent beaucoup plus impersonnelles, beaucoup plus courtes, beaucoup plus conventionnelles. Comme on le disait tout à l'heure, il épouse complètement, au fond, la fonction épistolaire. Les lettres, c'est des messages de remerciement pour des cadeaux, c'est des lettres qui servent à fixer un rendez-vous, à souhaiter la bonne année à quelqu'un. Mais il n'y a plus cette inventivité, cette façon enjouée, disons, d'entretenir la correspondance. Les lettres deviennent aussi très très courtes.
Juste peut-être une lettre à Frida Mermet, le 28 décembre 1936. Donc c'est toujours en fait un peu le rite, elle lui a toujours envoyé quelque chose pour Noël, elle garde ce contact-là. Probablement elle lui a rendu visite une ou deux fois à Herisau, on ne sait pas beaucoup plus. Mais je trouve cette lettre assez touchante, justement par contraste avec tout ce qu'on a pu lire auparavant, même s'il transperce quand même encore quelque chose de cette fonction qu'elle avait pour lui. Très courte. « Chère Madame Mermet, vous remercions vivement des aimables cadeaux de Noël. J'espère que vous êtes en bonne santé et de bonne humeur, et que vous avez passé des journées joyeuses pendant les fêtes. Tout en me félicitant d'avoir, d'avoir eu en vous cette bonne amie que vous êtes, je vous adresse avec mes sincères vœux de nouvel an des salutations cordiales de votre Robert Walser. » Voilà, c'est tout. Il n'y a plus d'ironie, il y a peut-être cette nostalgie d'un autre contact, de cette autre fonction, parce que ce n'était pas uniquement une amie de sa vie, mais c'était aussi une amie de son écriture. Et je pense que cette fonction est tout à fait essentielle pour lui. Finalement, il a toujours eu besoin d'une lectrice, soit imaginée, pour pouvoir écrire. Et je pense que le secret aussi de sa relation tellement durable avec Frida Mermet et là-dedans, donc en fait l'écriture a besoin de cette ouverture. Il ne peut pas écrire sans s'imaginer que quelqu'un le lit, et donc c'est pourquoi aussi en fait il y a tellement d'ouverture vers le lecteur dans ses proses, dans tout son œuvre littéraire. Et donc ça, c'est en fait un peu cette lectrice virtuelle que représentait, incarnait pendant très longtemps Frida Mermet. Et c'est pourquoi elle était absolument indispensable, elle était d'une certaine manière présente dans l'œuvre partout, jusqu'en 1933, et au moment où il décide, et ça c'est un acte de sa souveraineté, j'aimerais quand même le souligner, en fait, il décide d'arrêter d'écrire, on lui propose encore une chambre à part, on lui propose les outils, etc., le papier, etc. Vous étiez quand même un écrivain, est-ce que vous n'auriez pas envie, etc. Donc, même pour des fins thérapeutiques. Là, il dit qu'il arrêtait ça, c'était l'écrivain au repos, et à ce moment-là, il n'a plus besoin d'écrire des lettres de ce type-là. C'est pas, je pense, qu'il a perdu une faculté ou une autre, mais en fait, c'est un changement de paradigme qui s'opère, il est très cohérent. Donc, il n'y a plus de prose, en fait, il n'y a plus besoin de lettres qui ressemblent beaucoup à des proses, en soi. Et donc, cet laconisme, en fait, c'est clair, c'est quelque chose de triste, de touchant aussi un peu, mais c'est aussi quelque chose qui me touche justement par cette cohérence.
Alors, madame du premier rang.
Oui, je voulais juste aussi vous demander par rapport à ça. Donc, les lettres vont de 1897 à 1949. Et dans le fond, pourquoi 49 ? Puisqu'il a vécu encore jusqu'à 1956. C'était une question. Je n'ai pas lu l'ouvrage encore. Hein, mais
c'est la dernière lettre
que nous avons.
Ah, oui. C'est la dernière. Oui. Il n'y en a plus.
Après. Non. Est-ce qu'il n'en a plus écrit ou bien est-ce que Carl Zelig ne les a pas gardées ? On ne sait pas.
Quel rapport avec quelle époque, quel rapport avec les lettres ? Parce que justement, c'est des textes qui n'ont pas d'interlocuteur.
Alors, les textes du territoire du crayon, oui. Ils sont en fait étroitement liés au travail de feuilleton de Walser. On a pu dire justement que pendant toutes les années 20, le territoire du crayon, c'était en fait le territoire de ses brouillons, le premier jet de son écriture, à partir duquel, comme le commis de sa propre écriture, il transcrivait les textes qui lui paraissaient pouvoir intéresser les journaux et les leur envoyait. Donc cette écriture du crayon, elle est à la fois très intime, parce que c'était écrit dans des lettres minuscules, Walser était le seul à connaître l'existence de ces brouillons, et le seul à pouvoir les lire aussi, évidemment. Voilà, mais c'était destiné quand même à alimenter son négoce de petite prose. C'était en fait une sorte de grenier ou de machine à produire, ou à entretenir, disons, l'inspiration. Donc, les lettres remplissent un peu la même fonction. Elles sont aussi là pour entretenir la machine et continuer à écrire et à fantasmer les interlocuteurs, au fond. Donc, voilà le rapprochement qu'on peut faire. Mais toutes ces lettres, elles sont écrites de manière à être lisible pour des destinataires. Elles ne sont pas écrites dans un caractère minuscule du tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une des lettres qui est reproduite ici, enfin qui est traduite ici, est un des très rares témoignages de Walser lui-même sur le territoire du crayon. C'est là qu'il utilise lui-même aussi cette expression, territoire du crayon. C'est une lettre au rédacteur en chef de la N77, si je me trompe.
Non, c'est Max Lichner. Ouais. Max Lichner.
D'une revue.
Oui, c'est une revue.
Enfin, bref. Donc, c'est une lettre très intéressante parce que Walser, à mots couverts et de façon seulement partielle, il faut bien le dire, lève un petit pan du voile qui cache cette façon de travailler sur des brouillons. Mais il cache autant qu'il révèle, hein, cette lettre à Max Lichner. Mais c'est malgré tout un des très rares témoignages de Walser sur ce territoire du crayon.
Mais juste pour rejoindre encore votre question, donc là, en fait, cette façon, disons presque dialogique de son écriture, donc cette ouverture vers un lecteur, quoi qu'il en soit fictif, ça se trouve déjà dans les microgrammes. Donc même si c'est une écriture secrète, en fait, ce lecteur-là ou cette lectrice, je pense qu'on peut la penser en féminin, cette lectrice est toujours présente. Et donc c'est pourquoi d'ailleurs ces textes peuvent se transposer très facilement dans cet autre genre, donc qui est le genre qu'il entretient par la suite, c'est le genre du feuilleton, parce que les feuilletons également, c'est un genre donc, qui a cette extrême ouverture vers le lecteur, qui va captiver le lecteur. Vous trouvez cette chronique dans le journal, dans votre quotidien, vous êtes en quelque sorte la lectrice d'une lettre que quelqu'un vous envoie. Walser a publié un feuilleton qui s'appelle « Lettre à tous ». Donc en fait, ces feuilletons ont souvent aussi la forme d'une lettre. Donc, vous êtes interpellé. Walser était un écrivain qui avait toujours besoin donc, de cet élément de dialogue. C'est pourquoi on parle aussi qu'il avait une sorte d'oralité. Donc, en fait, il parlait en écrivant, ou l'écriture, en fait, faisait semblant d'être une sorte d'entretien permanent. Et donc, c'est pourquoi le statut de texte micrographique d'une lettre donc, à Frida Mermet est d'un texte publié dans une revue ou un journal, en fait, il se ressent beaucoup sur ce point-là. Donc, voilà, tout est un ensemble. Et je pense que même, effectivement, les lettres à Frida Mermet, notamment, il sert aussi à maintenir cet entraînement, cette continuité dans l'écriture, parce qu'il ne fallait surtout pas rompre le mouvement. Il s'est mis avec une discipline absolument impressionnante chaque matin à 9h à sa table quoi, où elle était située. Donc il commence à écrire sur rien peut-être, selon le fameux programme que vous connaissez de Flaubert. Il écrit sur rien, mais il doit écrire et la main doit rester échauffée. C'est comme, en fait, les lettres à Frida Mermet, pour moi, des fois, ils ont cette fonction-là. Tout, en fait, ils s'échauffent la main, tout comme les chaussettes qu'elle lui tricote, lui chauffe les pieds.
Moi, j'aimerais, s'il vous plaît, je voudrais avouer ma crasse ignorance. Je ne connais pas Walser, je n'ai rien lu de lui. Mais il y a une question qui me taraude depuis que vous en parlez ici. Il a donc été interné apparemment de nombreuses fois dans sa vie et très longtemps. Qui est-ce, et apparemment, comme sous terre peut-être, il était un peu rejeté par sa famille. J'aimerais savoir quel était, pourquoi, pour quelle raison, est-ce que c'était dans son comportement, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit interné aussi souvent ?
C'est une histoire compliquée. D'ailleurs, si vous faites référence à Sous Terre, je pense que ce n'est pas pour rien. Donc, c'est la même génération, c'est le même système psychiatrique. Donc, il faut quand même se rendre compte que c'est quand même ce contexte-là. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Walser, il n'a pas été interné à répétition, mais il a été interné une seule fois en 1929. Suite à des crises qu'il avait, c'était un homme esseulé, peut-être un peu bizarre dans son comportement. On dit aussi qu'il aurait demandé en mariage les deux femmes logeuses, donc il y avait deux sœurs, demande en mariage aux deux peut-être pas, on ne sait pas. Mais de toute façon, c'était un homme qui avait ses attitudes un peu bizarres, ses bizarreries comme ça. Mais bon, il y avait aussi un antécédent, c'était dans la famille, effectivement. Il y avait déjà eu un cas d'un frère qui est mort dans la même clinique, donc dans la Waldau. Il y avait un autre frère, peut-être le plus, établi, qui était professeur de géographie à Berne, qui s'est suicidé en 1919. Donc il y avait de quoi. Et au moment où Walser, pour ainsi dire, arrive devant la porte de l'asile à la Waldau, effectivement, on avait déjà un dossier Walser, disons. Et le médecin traitant connaissait la famille. Et évidemment, dans la perspective de l'époque, les choses étaient très rapidement établies. Au bout de 15 minutes, on le sait, il y avait diagnostic définitif, tampon, et c'était le terme générique schizophrénie pour Walser. Finalement, on a maintenant aussi toute une documentation. C'est quand même assez bien documenté, cette histoire, aussi de la suite à Elisau. C'est pas, par exemple, il est marqué dans les notices donc, du médecin traitant qu'il avoue finalement d'entendre des voix. Donc on dit, en fait, l'un des symptômes de la schizophrénie, c'est d'entendre des voix. Finalement, Walser, lui, avoue aussi d'entendre des fois des voix. Voilà. Bon, ça ne m'étonne pas à le lire. Hein. Mais bon. Juste pour dire que ça, c'est à ce stade-là, dès qu'il y a une crise, c'est certainement peut-être un homme qu'on appellerait aujourd'hui dans une situation dépressive ou aussi, on pourrait même parler d'un burn-out pour quelqu'un qui a écrit vraiment jusqu'à n'en pas finir, n'est-ce pas? Et voilà, donc tombe ce diagnostic, mais justement, comme Marion vient de le dire, n'est-ce pas, il a quand même continué à entretenir ce commerce et donc cette façon de vivre. Dans les années de l'internement dans la Waldau. Donc c'était aussi un lieu qui lui procurait une certaine sécurité. Je pense qu'il l'a d'ailleurs dit. C'était pas complètement, c'était pas une mise à l'écart, parce qu'à l'écart il était avant, certaines manières, donc en fait c'était même une forme de sécurité sociale, disons, d'avoir ce contexte-là, au moins pour un passage. Mais après est intervenue donc toute une série d'événements qui ont été opérés contre son gré, d'ailleurs aussi un peu, bon, c'est pas le tort de sa sœur, mais effectivement il aurait voulu rentrer chez sa sœur, qui n'en voulait pas. C'était quelqu'un qui n'avait pas d'assurance vieillesse, qui était devenu peut-être aussi un peu compliqué. Elle ne voulait pas passer tout son âge, qui est déjà un peu avancé, avec ce frère un peu particulier. De toute façon, à ce moment-là, ce n'était pas possible, et puis on l'a déplacé à Helisau. Mais si vous voulez bien lire les promenades donc, que Karl Selig nous a léguées, donc Karl Selig qui était son tuteur, était devenu son tuteur dans cette période, et qui a écrit un livre donc, sur les promenades avec Robert Walser, qui sont quand même les témoignages d'un homme absolument lucide, ouvert vers tout ce qui se passait. On peut lire des choses sur la situation des années 30, la guerre, l'avènement des nazis. Donc Walser était tout à fait au fait de tout ce qui se passait autour. Donc ce n'était pas du tout, alors ça on peut le dire, ce n'était pas quelqu'un de détruit ou d'autiste, de refermé sur lui, mais qui s'était accommodé à cette situation, et voilà, donc qui était mis au repos forcé à l'âge de 55 ans, voilà, qui a continué quand même à vivre jusqu'en 1956 de cette manière. Donc, bon, j'abrège encore.
Mais je voudrais juste dire qu'à Herisau, il a décidé de se soumettre, puisqu'on l'emmenait là-bas. Il a décidé de ne plus écrire. Il a décidé de travailler. Il travaillait tous les jours. Il acceptait parfaitement la discipline de ce lieu. Il faisait des sacs en papier, il triait des légumes secs, etc. Et il travaillait tellement, il a toujours cru dans le travail et dans la discipline. Il travaillait comme un pensionnaire modèle, comme quelqu'un qui aurait choisi presque de devenir un moine, si bien qu'à Karl Selig, qui était son tuteur et son éditeur, il lui écrit en 49, c'est la dernière lettre que nous gardons, « Cher Monsieur Selig, tout en vous remerciant de votre proposition, je préférerais que vous veniez me voir une autre fois, un dimanche, du moment qu'en semaine j'ai toujours passablement à faire, avec les cordiaux messages de votre très affectionné Walser. » Donc, ça montre
une abdication.
Oui, mais une acceptation totale, ouais. C'est-à-dire qu'il garde sa liberté. Ouais. Les dimanches, il fait des promenades extrêmement longues. Et quand il est avec Karl Selig, il passe je ne sais pas combien de collines, il s'arrête au moins deux fois pour manger un poulet, des saucisses, boire une ou deux bouteilles de vin, et il continue à marcher. Et quand il marche, il discute, et Karl Selig a fait ce livre magnifique, commencé par sa promenade avec Robert Walser de Selig. Et donc c'est quand même une... Moi, je trouve que c'est une leçon de l'œuvre de Walser, c'est que il a toujours été conscient des circonstances dans lesquelles il était, et il a toujours été terriblement impertinent, rebelle, mais il a toujours gardé sa liberté.
Et je crois qu'un élément très important quand même qui joue dans le silence de Walser, c'est les dates, tout simplement. Quand on voit l'éventail de ses correspondants, c'était toute l'Allemagne. Qu'est-ce qui se passe au début des premiers mois de 1933? C'est vraiment l'effondrement de toute la vie intellectuelle en Allemagne qui se produit. Et comment est-ce que Walser aurait pu continuer à publier? Il n'avait plus d'écho dans les maisons d'édition depuis longtemps. Et son gagne-pain, c'était les feuilletons qu'il envoyait à travers toute l'Allemagne. Tous ces feuilletons, les uns après les autres, étaient voués à disparaître. Il le savait au moment où il est déplacé à Herisau. Il aurait dû, donc c'était en avril 1933, il savait consciemment que ce qu'il attendait, s'il voulait continuer à écrire et à vivre de sa plume, c'était reconstituer tout un réseau. C'était au-dessus de ses forces, certainement, parce qu'il avait déjà une œuvre immense derrière lui, et on voit, c'est une des choses, je trouve, très émouvante dans cette correspondance, on se rend compte du rythme auquel il travaillait. Et que, bon, on entend toujours aussi un des lieux communs sur Walser, c'est que c'était un homme qui cherchait l'échec, qui voulait rater sa... Enfin, qui voulait ne pas être lu, ou... Et là, on voit vraiment tout le contraire. On voit un homme qui cherche à être lu, qui cherche à être publié, qui a un écho très important. Le nombre de lettres dans lesquelles il fait allusion à des textes écrits sur lui, des critiques, des études même sur son œuvre. Moi, je dois dire que, ayant vécu quasi en couple avec Walser depuis 10 ans, je ne me rendais pas compte qu'il avait eu, de son vivant, un pareil écho. Et là, grâce aux notes qui commentent les lettres, on se rend compte qu'il avait un écho énorme. Donc, au moment où tout ça s'effondre, en 1933, il a dû aussi être extrêmement découragé. Et puis j'entends la retraite à 55 ans, ben c'est la mode hein, aujourd'hui en France. Donc moi, je vois ça autant qu'une vocation de moine, autant qu'une soumission au destin. Je vois, pour un homme célibataire, dans un monde extrêmement conventionnel comme était la Suisse dans les années 30, très indépendant d'esprit, etc., sans aucune assurance vieillesse, ben, finalement, l'asile, c'était pas mal.
Mais c'est une sorte de soumission aux circonstances.
À l'inévitable. Une sorte de sagesse. Et c'est un des leitmotifs, c'est la soumission à l'inévitable. Mm-hmm. Au moment où il perd son père, il écrit une lettre très belle à Madame Mermet en disant en quelques mots que son père est mort, mais que c'est triste, mais qu'il faut accepter, ça fait partie de la vie, et il faut rapidement accepter ces choses inévitables.
C'est une sorte de force.
C'est une force, oui. Absolument, et c'est une éthique aussi. Mm-hmm.
Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez encore quelque chose que vous voulez dire?
On peut tout recommencer si vous voulez. Je dirais que c'est une correspondance qui laisse tellement de portes ouvertes et de places et de fenêtres ouvertes au lecteur qu'on peut... Elle n'apporte pas de réponse définitive sur Walser parce qu'il n'y en a pas. Et elle se lit justement un peu comme un livre qui soulève les questions autant, qui alimente les questions qu'on peut avoir autour de Walser. De façon assez inépuisable, en fait.
Il y a peut-être aussi, justement, comme on vient de dire, qu'il y a en fait toujours cette ouverture dans cette écriture. Donc on peut dire, mais Doris l'a dit déjà dans son introduction, en fait, ces lettres nous sont adressées d'une certaine manière. Donc on se sent assez interpellé d'une manière presque un peu curieuse. On est mis en rapport avec cette écriture directement et à partir de la première lettre. Et donc c'est pourquoi, en fait, ce ne sont pas forcément des lettres intimes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose qui serait à côté ou derrière une œuvre comme ça, mais c'est au centre de l'œuvre, je dirais même, cette correspondance, pour toutes ces raisons qu'on a évoquées, c'est au centre de l'œuvre, et c'est pourquoi je suis d'autant plus heureux, finalement, ils ont trouvé, avec vous par exemple, donc ils ont trouvé un public, en fait, c'est des lettres qui nous sont destinées.
Que les gens... Qu'est-ce qui est arrivé à son frère, professeur de géographie? Pour quelle raison il s'est suicidé?
Ça, je dois dire, je l'ignore. Et on l'ignore, je pense, il faut le dire tout court, donc je ne sais pas. C'est en fait... il y a aussi des études psychanalytiques autour de la famille Walser. La mère avait des phases de dépression déjà. Il y a aussi un phénomène qui est intéressant, mais bon, là, on rentre un peu dans la spéculation, voire dans des domaines aussi un peu délicats, de dire, par exemple, que des 8 enfants Walser, donc ils étaient 8 au départ, en fait, il n'y a personne, donc aucun de ces enfants a eu des descendants. Donc il y a quelque chose qui est resté dans cette famille. Il y a des hypothèses qui disent ou bien on devient très créatif, comme voilà, il n'y avait pas uniquement Robert, mais il faudrait aussi parler Karl. Il y avait Karl Walser, donc qui était son frère préféré, qui était le peintre, qui était en fait de son temps, au moins au début, plus important, plus connu que Robert, évidemment. Donc il y avait la créativité, mais il y avait aussi cet autre côté, ce versant peut-être d'une sorte de menace d'instabilité. Je n'en sais pas plus, je dois dire. Donc et pour ce frère, je ne le sais pas.
Il y a un peintre,
Il y a Karl Walser, donc, qui était vraiment une personnalité importante, et d'une part parce qu'il était décorateur de théâtre à Berlin, donc c'est là où il s'est fait connaître. Il était décorateur de théâtre chez Max Reinhardt, donc le meilleur peut-être metteur en scène de l'époque. Et en fait, Karl Walser, c'était une célébrité par ses décorations de théâtre. Et en plus, il a fait les illustrations de livres. Et ça, c'est ça ce qui l'a aussi rendu célèbre. Donc en fait, tout le monde s'arrachait Karl Walser pour faire des couvertures et des illustrations. Il travaillait avec les meilleurs éditeurs de sa période. Et c'était tout un art finalement. Et ce n'est pas uniquement pour ses propres rêves, mais Robert était aussi, en fait, à travers son frère Karl, très sensible à tout ce qui est la présentation de livres, la facture d'un livre, etc. Comment on présente d'une manière graphique, même la typographie et toutes ces sensibilités-là sont aussi grandement inspirées par Karl Walser. Et c'est Karl Walser aussi qui lui a ouvert les portes à Berlin. Donc au moment où Walser, Robert est venu à Berlin, en fait, il a suivi son frère qui était déjà là, qui avait déjà tous ces contacts-là. C'est pourquoi, en fait, il a pu avoir ce départ fabuleux, les entrées dans toutes les revues qui étaient vraiment à la pointe de l'époque, et aussi donc des accès au théâtre. Robert était aussi un mordu du théâtre. Il aurait voulu devenir acteur, ce qui n'a pas marché. Mais en fait, le théâtre est toujours présent dans ses œuvres. Tout ça, en fait, tous ces portes lui ont été ouvertes par Karl. Donc ça, il faut s'y reconnaître. Karl était, après, il y avait une prise de distance, etc. Il y avait une sorte, pas uniquement une indifférence, il y avait presque aussi une rivalité après un certain temps avec son frère. Et donc c'est une histoire assez compliquée. Par la suite, et finalement, Robert n'a même plus voulu que ce soit son frère qui illustre ses livres, parce que, quand même, les premiers livres ont tous été illustrés par Karl, et en fait, les éditeurs cherchaient Karl pour illustrer les livres de Robert, parce que c'était Karl qui faisait vendre. Donc, il faut effectivement parler de lui, mais c'est assez révélateur. Nous avons pratiquement aucune trace de cette relation avec Karl Walser dans sa correspondance.
Il n'y a pas
de lettre. En fait, bon, Karl était aussi insouciant que son frère, c'est-à-dire il a probablement jeté tout ce que lui a envoyé Robert, mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de correspondance. D'une part, ils vivaient vraiment ensemble, ils partageaient l'appartement à Berlin, par exemple, et aussi dans d'autres étapes de leur vie commune. Mais après, il y avait une telle distance qu'ils ne se sont plus tellement échangés. Karl est mort en 1943. Je dois dire que les réactions de Walser quand il a de Robert étaient plutôt d'indifférence. Donc, ça, c'est toute une autre histoire de cette famille. On est conscient qu'effectivement, avec ces lettres, on n'a pas toujours là.
Il y a une petite lettre en 4 où il parle de Karl. C'est le 29 avril 1904. Il habite à Zurich, à la Trittligasse. Tout le monde voit où c'est. Il envoie un éditeur aux éditions Insel, Alfred Walter Heimel. Sur la suggestion de Franz Blei, je me permets de vous écrire pour vous demander s'il serait imaginable que dans un proche avenir, un volume plus ou moins volumineux de mes travaux puisse paraître aux éditions Insel. Pour votre information, je me permets de vous faire savoir que mon frère, Karl Walser, peintre et dessinateur, Charlottenburg, Kantstrasse 72-73, a l'intention et le désir d'illustrer un choix de mes proses. Il le fera avec beaucoup d'amour. Ne pensez-vous pas qu'un tel volume pourrait être lu et acheté? Je crois pouvoir le croire. Le nom de mon frère, dont l'ascension et la vogue sont toutes récentes, procurerait certainement au livre des lecteurs et des acquéreurs. Il est particulièrement sensible à une petite histoire, la ville ensorcelée, encore inédite. J'ai envoyé il y a quelques semaines à M. von Pollnitz, à sa demande, des dessins probatoires pour Simon, le page. Sans réponse de ce monsieur jusqu'ici. Veuillez croire, monsieur, à ma plus haute considération, Robert Walser.
Oui. Il utilise d'une manière tout à fait savante cette possibilité.
Tout à fait, une relation d'affaires, des acquéreurs. Et des lecteurs, si on peut avoir les deux, c'est parfait. Et je crois qu'en effet, il n'y a pas beaucoup d'autres mentions que cette lettre-là. À Alors, encore un petit bruit sur Valser. Non. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous invite à descendre et continuer la discussion autour d'un verre. Mais auparavant, il faut bien les applaudir.